l'hôpital. T'as où les vaches?
Mais sur Radio des Alpes, du vieux.
Oh, mais tip top.
Bonjour, chers auditeurs. Pour commencer, Anna et moi allons vous parler des différents pays. Cette musique m'a donné envie de danser, pas toi?
Oui, carrément, Chloé. Tu savais que cette musique est traditionnelle de la Russie? Alors pourquoi ne pas faire un petit tour?
Ah, j'allais justement te le proposer. En plus, il paraît que c'est un très beau pays.
La Russie est un pays connu pour ses vidéos qui font le buzz sur Internet, repris par des youtubeurs, par exemple PewDiePie, WhatTheCut et bien d'autres. La Russie est aussi connue pour être le plus grand pays du monde, mais nous ne savons pas beaucoup de choses sur ce magnifique pays. Alors je vous invite à en découvrir plus et en savoir plus sur ce magnifique pays. La Russie est le plus grand pays de la planète. Le nombre de ses habitants est d'environ 143,6 millions environ en 2014. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Sa capitale, c'est Moscou, comme vous le savez déjà. Et sa langue officielle, comme vous l'avez deviné, c'est le russe. Et sa monnaie, c'est le rouble. La Russie est un pays très urbanisé. 73%, excusez-moi, des Russes résident en ville. La Russie a beaucoup de sources minières. Le fer, le nickel, diamant, etc. Et énergétique. Pétrole, gaz naturel, etc. Qui font de la Russie un pays très riche grâce à cela. La Fédération de Russie est constituée de 22 républiques, 46 régions et 9 territoires, 4 districts autonomes et 3 villes d'importance fédérale, Moscou, Saint-Pétersbourg et Sébastopol. Moscou. La ville de Moscou, c'est à l'ouest de la Russie. C'est la capitale du pays, bien sûr, comme vous le savez. Aujourd'hui, la capitale russe est une ville qui bouge, bien sûr. Elle a déjà accueilli les Jeux Olympiques d'hiver et la ville reçoit chaque année de nombreux touristes, comme ailleurs également, mais surtout venu admirer les vestiges de l'époque, ou les bâtiments, des établissements. Cependant, Moscou reste la ville la plus chère au monde. Étant avant New York et Londres, le coût de la vie est très très cher. Les économes, abstenez-vous. La cathédrale de Basile le Bienheureux est l'un des monuments les plus touristiques et extrêmement connus. La basilique fut demandée au XVIe siècle par Ivan le Terrible. Il y a une légende qui raconte que Ivan y fait crever les yeux des architectes, pour qu'ils ne puissent plus jamais construire une aussi belle ailleurs. Le Kremlin, vieille forteresse du XIIe siècle, est absolument magnifique. C'est une sorte de petite ville à l'intérieur de la ville. Elle est pleine de musées, églises et tient aussi le siège du gouvernement. Donc, la Russie est un pays très riche et surtout rempli d'œuvres architecturales, de musées, de places centrales, de tableaux, de parcs, bref. L'histoire de ce pays est très riche, bien qu'elle soit un peu compliquée. Nous savons aussi que c'est un pays qui marche très bien au niveau économique. On y produit et vend beaucoup de choses, dont le pétrole, le gaz, du diamant, du nickel, plein de choses. J'espère que ma chronique sur la Russie vous aura plu. Et j'espère que vous aurez appris des choses, excusez-moi, que vous ne savez pas. Je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée, je ne sais pas, au revoir.
Maintenant, il n'y a plus aucun doute, la Russie est un très beau pays. À présent, pourquoi ne pas aller un peu plus au sud, en Thaïlande?
Excellente idée. Tu sais quelle est la capitale de la Thaïlande?
Oui, c'est Bangkok, une très jolie ville.
Et si on s'y rendait pour écouter Aurélie?
Oui, allons-y.
Bonjour. Aujourd'hui, je vais interviewer ma maman sur la Thaïlande, parce qu'elle était agent de voyage au TCS à Sion. Après, chez Koni, toujours à Sion. Puis, encore chez Koni, mais à Montay. On est allé plusieurs fois en Thaïlande avec ma famille pendant les vacances. C'était vraiment cool. Le paysage était super joli, la température, n'en parlons pas, la mer très belle et la nourriture très bonne. En Thaïlande, on parle Thaï, mais la plupart des personnes parlent aussi anglais. La Thaïlande se trouve en Asie et la capitale, c'est Bangkok. En général, il fait entre 20 et 40 degrés, mais il fait très humide.
Alors premièrement, comment t'as été accueillie la première fois que t'as été en Thaïlande? Les gens, ils étaient comment?
Je suis arrivée à Bangkok, qui est une grande ville. L'arrivée est plutôt anonyme, comme dans toutes les grandes villes du monde. Et après, nous avons continué pour l'île de Phuket, où là, les gens étaient tous très souriants, très calmes, très serviables, toujours prêts à nous aider, à nous guider. Et voilà, c'était une petite station balnéaire à l'époque.
Et qu'est-ce qui te plaît là-bas? Pourquoi?
Ce qui m'a plu, c'est bien sûr la plage, la température, Les paysages, très exotiques pour nous, et la gastronomie, parce que j'adore la cuisine thaïlandaise.
Est-ce que tu pourrais vivre dans un pays comme la Thaïlande? Sinon, pourquoi?
Non, je ne pourrais pas vivre en Thaïlande. L'hiver me manquerait trop.
Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité une journée où il fait mauvais?
Peu de choses, je dirais. Si nous sommes dans une grande ville, surtout à Bangkok, il y a beaucoup de possibilités de shopping. Il y a des grands centres commerciaux où nous serions à l'abri. Ils sont climatisés. À côté, il y a les petits marchés traditionnels. Alors on les évitera parce qu'on va se faire tremper. Quand il pleut, ce sont de gros orages. Ça inonde les rues souvent. Et quand le soleil revient, une heure après, c'est déjà sec.
Est-ce que tu as déjà fait une promenade à dos d'éléphant? Comment c'était?
Oui, j'ai déjà fait une promenade à dos d'éléphant dans le nord de la Thaïlande. Nous avions traversé une rivière, nous nous sommes promenés dans la forêt. Alors, pour monter sur le dos de l'éléphant, il y a une sorte de plateforme, on monte une échelle, on va sur la plateforme et là on s'installe dans une nacelle placée sur le dos de l'éléphant. On est deux personnes sur le dos de l'éléphant. Et la promenade commence à un rythme lent parce que l'éléphant ne marche pas bien vite et on se laisse balancer sur ce dos d'éléphant en profitant du paysage.
Je suis sûre que ça vous fait rêver maintenant de repartir en vacances où il fait chaud, avec les plages de sable fin et la mer turquoise. Avec toutes ces belles choses à visiter et les bonnes choses à manger. J'espère que ça vous aura plu et que ça ne vous aura pas trop déprimé avec le froid et l'hiver qui arrivent. Je remercie encore une fois ma maman d'avoir accepté que je l'interviewe et d'avoir répondu à mes questions. À bientôt.
Voilà, après avoir écouté What Now de Rihanna qui a tourné son clip en Thaïlande, passons à Damien qui va nous parler du Japon.
Ah oui, le Japon et ses mangas, toute une histoire.
Konnichiwa, vous avez déjà sans doute entendu parler d'un manga, que ce soit Naruto, One Piece ou même Fairy Tail. Mais savez-vous seulement d'où ils viennent? Laissez-moi vous présenter le Japon. Je pourrais par exemple vous parler de leurs magnifiques chansons. Voilà, chez nous, on a Claude François et AC/DC, et eux, ils ont Pon Pon et Baby Metal. Et quand on était petit, on regardait My Little Pony, par exemple, mais eux, au Japon, ils ont Pompoko. Un dessin animé qui met en scène des ratons laveurs qui luttent contre la déforestation de leur habitat muni de leurs testicules. Voilà une culture très différente de la nôtre. Chez nous, on l'appelle BD, mais chez eux, ça s'appelle un manga. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une BD qui se lit à l'envers avec un format légèrement plus grand que A5. Cela raconte généralement des histoires fantastiques, passant d'un héros surpuissant du Moyen-Âge comme dans Berserk, un équipage de pirates dans One Piece, ou même en racontant l'histoire d'un jeune homme fan de Roller dans Air Gear. Il existe des centaines et des centaines de mangas, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit dans le sport, dans l'irréel ou même dans des histoires réalistes. Les musiques qui sont en fond sont les openings, sortes de génériques du début des mangas, de Shingeki no Kyojin et de Death Note. En bref, le Japon c'est super, ils ont une culture très spéciale par rapport aux pays d'Occident comme nous, ce qui ne les empêche pas d'être très intéressantes à traiter. Je vous souhaite une bonne continuation sur la radio des Alpes et je laisse la parole à mon prochain camarade.
Maintenant qu'on sait plus de choses sur le Japon, passons à Sixtine qui va nous parler de Bali, cette île paradisiaque située sur le continent asiatique.
Oui, mais avant ça, savais-tu que le Japon comptait plus de 8,1 millions d'habitants ?
Non, sérieux ? C'est juste énorme !
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la culture balinaise. Bali est une île d'Indonésie de religion hindouiste et elle compte environ 3 890 000 habitants. Dans la culture balinaise, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai choisi un petit thème assez original, ce sont les prénoms balinais. Ils sont tous assez bizarres pour nous, mais pour eux, les balinais, ils signifient tous quelque chose. Alors j'ai été en vacances à Bali et notre guide pour la semaine s'appelait Neoman. Je trouvais ça bizarre, mais bon, c'était baliné. Par la suite, on a vu encore plusieurs pancartes avec les prénoms suivants, Neoman, Madé ou bien d'autres. Bon, la semaine se poursuivait, mais je voyais encore tout plein de prénoms comme ça. Alors j'ai demandé à Neoman, notre guide, de m'expliquer pourquoi tout le monde s'appelait comme ça. Et elle m'avait dit qu'à Bali, les prénoms sont tous pareils, car dans les familles, on donne les prénoms selon l'ordre de naissance des enfants. L'aîné, ce sera Wayan, qui signifie le plus ancien. Pour le cadet, ce sera Madé, qui signifie qui au milieu. Pour le benjamin, Neoman, qui signifie le dernier. Et enfin, pour le quatrième, Ketut, qui signifie la fin. Mais après, je lui ai quand même demandé, pour le cinquième, sixième enfant, il n'y en a pas. Et elle m'avait répondu que j'avais raison, qu'il n'y a pas de prénom pour les cinquième, sixième enfant. Car dès le cinquième, on recommence au premier, puis au deuxième, ainsi de suite, en rajoutant la fin du prénom Bali, qui veut dire retour à, par exemple, Wayan Balik, retour au plus ancien. Mais alors là, j'étais très surprise. Vous vous rendez compte, tout le monde avait le même prénom, je vous dis pas la galère. Mais elle m'avait aussi raconté que pour s'y retrouver, il y avait quelques synonymes. Et heureusement, il ne manquait plus que ça, qu'il n'y en ait pas. Alors on n'avait pas besoin de mettre Balik à la fin. En continuant cette discussion, je lui ai demandé de me parler des noms de famille, s'ils étaient aussi spéciaux, parce que vu les prénoms, on pouvait s'attendre à tout. Mais je me souviens qu'elle m'avait expliqué qu'à Bali, il n'existe pas de nom de famille commun pour toute une famille entière, mais que le nom de famille est attribué par les parents le jour du troisième mois de naissance du bébé. Donc celui-ci dépendra du caractère du bébé, de son apparence, de ses circonstances de naissance et des qualités dont les parents espèrent de lui. Eh bien, alors maintenant, les sciences des noms et des prénoms balinais étaient beaucoup plus claires pour moi. Donc pour conclure, durant ce voyage, j'ai appris beaucoup de choses. Et je remercie Neoman qui m'a fait découvrir les danses traditionnelles balinaises en passant par la cuisine, mais j'ai été très surprise par les prénoms. Ici en Suisse, il y a une multitude de prénoms, alors que là-bas, il y en a 4 plus quelques synonymes. Alors maintenant, si j'ai bien compris, je devrais m'appeler Madé en balinais. Et vous, comment devriez-vous vous appeler en balinais ?
على بالي عارف شو اللي تغير فيه. بعرف ما عدان علي عذاب وعلي كاين فيه مش هيدا اللي قلبه حبه ولا خصه بحالي لو في يمسح له الدمع اللي زرعت عخده ضويله بهالعدني سمع ورجع كل شي بده يرجع كل شي مثل الاول على بالي على بالي لو في يمسح له الدمع اللي زرعت عخده ضويله بهالعدني سمع ورجع كل شي بده يرجع
C'était une musique d'un chanteur d'origine balinaise.
Ah mais Bali, tellement de choses à dire sur cette île indonésienne, un beau lieu de vacances.
Je suis tout à fait d'accord, mais pourquoi ne pas aller en Corée du Nord ou bien en Corée du Sud? Que choisirais-tu?
Aucune idée, demandons à Ludovic de faire la différence.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Radio des Alpes. Je m'appelle Ludovic Thur et je vais vous présenter mon reportage qui porte sur une comparaison entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Au sommaire, on va s'intéresser à l'histoire de ces deux pays afin de pouvoir répondre à des questions comme est-ce que ces deux pays ont-ils toujours été séparés? Pourquoi ne forment-ils pas qu'un seul pays? Et sont-ils très différents au niveau de leur politique et de leur culture? Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Commençons par la question est-ce que ces deux pays ont-ils toujours été séparés? La Corée a été créée en 108 avant Jésus-Christ et resta un pays très solidaire qui repoussa plusieurs invasions comme celle perpétrée par le Japon en 1592 et en 1597. Ce pays ne resta qu'un seul pays jusqu'en 1945 où il fut séparé. Pourquoi ne forme-t-il pas qu'un seul pays? Il faut savoir qu'il ne fut pas séparé de n'importe quelle façon. Ce fut les Américains qui s'approprièrent le Sud pour faire face à l'URSS au Nord lors de la guerre froide, ce qui provoqua la guerre de Corée de 1950 à 1953. Et ce n'est qu'à la fin de cette guerre que de réelles frontières ont été fixées. Sont-ils très différents au niveau de leur culture et de leur politique? Si on parle de leur langage, les deux pays ont toujours partagé et partagent encore aujourd'hui la même langue qui est le coréen. Si on parle de leur culture, la culture majoritaire est la culture dite du confucianisme, qui implique un grand respect de ses parents, des aînés ou de ses professeurs. Cette culture encourage les Coréens à être chaleureux, accueillants et à faire preuve d'hospitalité. Si on se tourne maintenant vers leur politique, la Corée du Sud pratique le mode politique de la démocratie indirecte, ce qui veut dire que le peuple élit des gens pour choisir les lois à appliquer. La Corée du Nord est un des rares pays à être encore communiste. Il pratique un régime totalitaire, une politique qui prône un contrôle du pays par une seule personne et qui n'accepte aucun autre parti politique. Cette politique était entre autres utilisée par Hitler ou Mussolini au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Autrement dit, c'est une dictature qui est en l'occurrence pratiquée de père en fils. J'espère vous avoir appris des choses, car j'ai l'impression que les gens connaissaient ce pays sans le connaître. Les médias transmettent des choses, mais ce n'est qu'une petite partie de la réalité. Bien sûr, je n'ai pas parlé de tout ce qu'il y a en Corée, il y en aurait beaucoup trop à dire. Sur ce, passez une bonne journée et au revoir.
Tu as compris la différence?
Oui, vraiment.
Tu sais de quel pays Jérusalem en est la capitale?
De l'Israël, je crois. Pourquoi?
Bravo, c'est juste. Parce qu'on va écouter Samantha qui va nous parler de ce pays. Every beautiful thought's been already sung. And I guess what now? Here's another one. So your melody will play on and on.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'Israël et des conséquences du conflit israélo-palestinien.
car c'est un sujet qui fait beaucoup de polémiques à l'actualité en ce moment. Alors, l'Israël est situé sur la côte orientale de la mer Méditerranée, au Proche-Orient, et est partagé en 6 districts. Le district de Jérusalem, le district nord, le district d'Haïfa, le district centre, le district de Tel Aviv et celui du sud. Sa capitale est Jérusalem, mais n'est pas reconnue internationalement. Sa langue officielle est l'hébreu, mais on y parle aussi l'arabe. Le président actuel est Reuven Rivlin depuis 2007. La plus grande partie de la population est juive, à 70%, mais aussi arabe, à 26%, et les 4% restants sont en grande partie grecs, arméniennes et syriaques. Depuis son indépendance en 1948, l'État d'Israël s'est retrouvé engagé dans plusieurs conflits armés avec les pays arabes voisins, notamment en Palestine. Cette guerre débuta le 14 mai 1948, le jour de la création de l'État d'Israël, et est toujours d'actualité. Car les pays limitrophes n'étaient et ne sont pas d'accord que l'on prenne une partie de leur terre pour des raisons dites bibliques. La conséquence principale est l'économie. Depuis 2000, l'Israël est passé de plus 6,4% à moins 0,5% de PIB, notamment à cause de la récession américaine. En conclusion, ce conflit est l'un des plus médiatisés de cette décennie et a dévasté une grande partie du nord de l'Israël et de la Palestine, nommé Gaza.
Voilà, c'était Tal qui est d'origine israélienne. Mais passons à autre chose. As-tu déjà entendu parler du port du voile en Suisse ?
Non, mais laissons Axel nous éclairer sur ça.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Alors aujourd'hui, je vais faire un micro-trottoir sur une polémique qui touche la Suisse. Eh oui, les gens qui portent le voile. Alors, avez-vous déjà une opinion concrète sur le sujet ? Ou bien avez-vous même croisé des gens qui portent le voile ? Ou des amis qui le portent, tout simplement ? Moi, je sais pas bien si je dois être pour ou contre. C'est pourquoi je vais aller poser la question à plusieurs passants pour me faire une idée. Alors, écoutons mon micro-trottoir. Que pensez-vous du port du voile en Suisse par les femmes musulmanes ?
Alors, je suis pas d'accord du tout parce que je trouve que quand nous, on va dans leur pays, nous devons nous... On doit faire comme elles, on doit être aussi... On doit être voilé et tout ça. Alors, j'estime qu'ici, elles doivent s'adapter à notre manière de vivre, tout simplement.
Ok, merci. Et vous, qu'en pensez-vous ?
La même chose.
Si ça va dans leur sens, je ne vois pas le problème. Je ne vois pas où est le problème maintenant. Voilà.
Ok, et vous ?
Oui, moi je trouve que si ça fait partie de leur religion, pourquoi les empêcher de le faire ? Enfin, ça dérange qui ?
Franchement, okay.
Merci. Moi, j'accepte ça.
C'est pas quelque chose qui leur impose aussi. Si elles sont partisans de ça, oui. Mais après, chez nous, qu'est-ce que ça nous change?
Bah, on n'a pas à m'imposer à d'autres.
Nous, on vient des croix, des gens qui sont catholiques pour décroire pourquoi elle ne porte pas un voile.
Merci à l'ordre.
Mais si elles sont d'accord, on est pratiquantes et que ça fait partie de leur religion.
Elles font ce qu'elles veulent, elles, à mon avis.
Que pensez-vous du port du voile en Suisse?
Moi, j'ai rien contre. La foi, si on accepte les gens, il faut les accepter comme ils sont. S'ils acceptent aussi de vivre sous le même toit que nous, ça va bien aussi, mais si on les accepte, il faut les accepter comme ils sont. Donc ça, c'est à leur libre choix.
Moi, ça ne me dérange pas du tout. Pour moi, il n'y a aucun problème.
Et vous, madame?
Je suis ouvert. Bah, disons que chez eux, on ne peut pas aller comme on veut. Hein. Alors, ils n'ont pas besoin de faire comme ils veulent ici, chez nous.
Je pense que c'est pas si grave si on leur laisse porter le voile, qu'ils puissent avoir la liberté de leur religion.
Ah, ça, c'est une bonne question, le port du voile en Suisse. Alors, à partir du moment où le visage est découvert, ça me dérange moins, quoique on regarde ça chez nous. Mais les femmes mises en prison totalement couvertes et qu'on ne sait pas qu'il y a dessous, je suis tout à fait contre. Ça n'a rien à faire en Suisse.
Deux personnes ne voulant pas être enregistrées m'ont donné quand même une réponse orale. Ils étaient d'accord mais pour que les femmes musulmanes portent le voile, mais pas intégralement, juste un foulard sur la tête. Après avoir interrogé plusieurs personnes, je me suis rendu compte que la majorité des gens interrogés sont pour le port du voile en Suisse. Certains pensent qu'elles peuvent porter le voile, ça ne les dérange pas, et d'autres pensent qu'elles peuvent le porter, mais pas intégralement. Moi, en tout cas, ce micro-trottoir m'a bien aidé à me faire une opinion sur le sujet. Merci de m'avoir écouté. Et juste une question pour la route. Vous, qu'en pensez-vous ?
Tu connais le chanteur qu'on vient d'entendre ?
Oui, c'est Stress, un chanteur suisse. Bref, passons à la Hongrie.
Mais avant d'y passer, tu savais que ce pays fait plus de 93 000 km2 ?
Je n'imaginais pas qu'il soit autant grand, mais laissons la parole à Théodore.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui un pays d'Europe centrale d'une circonférence de plus de 93 000 km² qui compte presque 10 millions d'habitants comportant une grande richesse historique et culturelle. Il s'agit de la Hongrie. Après avoir été habité par les Celtes, les Romains, les Huns, les Slaves, les Gépides et les Avars, la Hongrie fut fondée à la fin du 9e siècle. En l'an 1000, elle fut convertie au catholicisme. Elle perdit sa souveraineté au profit de l'Empire ottoman en 1526. Elle appartint ensuite aux Habsbourg, puis fit plus tard partie de l'Empire austro-hongrois. Les frontières telles qu'on les connaît aujourd'hui n'ont été établies qu'en 1920. La Hongrie fut un pays communiste durant 4 décennies. Parlons maintenant de la culture hongroise. La langue officielle de ce pays en grande partie catholique est le hongrois. Au niveau alimentaire, quand on parle de la Hongrie, on pense tout de suite à la goulash, qui est une soupe traditionnelle constituée de viande, bœuf, veau, porc, agneau ou mouton, de légumes, carottes, tomates, choux, navets, et d'aromates, oignons, poivre, sel et l'indispensable paprika. En effet, les Hongrois sont connus pour utiliser beaucoup de paprika dans leur préparation. Les plats hongrois sont toujours accompagnés de pommes de terre ou de pain. La Hongrie est également célèbre pour ses alcools. Le Tokaj, qui est un vin vinifié à partir de raisins atteints de pourriture noble, est par exemple connu mondialement. La Hongrie est aussi musicalement très riche. Là-bas sont nés de grands compositeurs tels que Franz Liszt ou Béla Bartók, tous deux également pianistes virtuoses. Franz Liszt a par exemple inventé l'impressionnisme au piano et a révolutionné la technique pianistique. J'espère que ma chronique vous est éclairée sur le sujet de la Hongrie et vous donne rendez-vous sur cette antenne pour une nouvelle chronique d'ici peu. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.
Maintenant que Théodore nous a appris plein de choses sur la Hongrie, j'aimerais bien savoir des choses sur la Croatie.
Demandons à Noé de nous donner un peu plus d'informations sur ce pays d'Europe du Sud.
Chers auditeurs, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des pays, mais les pays c'est bien trop vague comme sujet. C'est pourquoi nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'Italie. Vous vous demandez sans doute de quoi je vais vous informer sur l'Italie. Eh ben, je vais vous parler plus particulièrement de la Sicile et de sa délicieuse nourriture. Pour commencer, parlons des entrées qu'on peut trouver sur les cartes des restaurants siciliens. Vous connaissez la caponata ? C'est un mélange de légumes sous forme de ratatouille. Sa recette est composée d'aubergines, d'oignons, de tomates, de céleri, d'olives vertes et de câpres. Les légumes sont cuits avec un verre de vinaigre et un peu d'huile d'olive. Pourquoi ne pas causer maintenant d'un plat principal ? La Sicile se trouve en Italie et en Italie, on a l'habitude de manger des pâtes, bien sûr. L'une des spécialités est tout simplement les pâtes siciliennes, plus connue sous le nom de pasta alla norma en Italie. Cette recette comporte bien sûr des pâtes, des aubergines, des tomates et de la ricotta salée, ce qui rassemble les parfums les plus authentiques de la Sicile. Donc si vous aimez la cuisine italienne et que vous cherchez un endroit pour vos prochaines vacances, ne cherchez pas plus loin, la Sicile est faite pour vous. Découvrez cette magnifique région italienne et pourquoi ne pas aller sur l'un des volcans les plus connus au monde, l'Etna, qui se situe à côté de la deuxième plus grande ville de Sicile, Catane, qui compte environ 300 000 habitants. Personnellement, je suis allé marcher sur ce volcan l'été dernier et je vais pas vous cacher que ça vaut vraiment le coup d'œil. Si vous y allez, vous ne serez pas déçus. J'aurais bien aimé rester un peu plus longtemps avec vous pour vous parler de ces merveilles, mais faut vraiment que j'y aille. Merci beaucoup d'avoir écouté mon émission et à la prochaine.
On a quand même bien voyagé aujourd'hui, tu ne crois pas ?
Je pense que oui. On a au moins visité 10 pays en moins d'une heure. N'est-ce pas fantastique ?
Absolument. Avec ceci, on vous dit à la prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Your hair, fix your teeth, what you wear.